France Culture.
André Bargue, vous êtes né à Marmignac, vous avez grandi à Marmignac, vous êtes musicien de profession et vous avez aussi été maire de Marmignac, de cette commune, pendant 25 ans, entre 1995 et 2020. Et vous avez aussi et enfin été l'une des personnes les plus proches de Jean-Marie. Est-ce que le terme d'amitié vous convient ?
Oui, parce que dans l'amitié, il y a des moments difficiles, des moments simples. Donc amitié, oui, à partir du moment où c'est fidèle, oui, bien sûr.
On s'est donné rendez-vous au Limoges, le lieu dit où Jean-Marie Massou et sa maman ont vécu. Un terrain de 2,5 hectares que vous allez nous faire découvrir. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ?
Ben, on va s'avancer vers la maison peut-être, avec comme symbole les deux pyramides et les deux sphinx qui sont comme des gardiens.
C'est par ici ?
Oui, c'est droit là.
Jean-Marie Massou, l'énigme des bois du Lot.
Allez, on y va. Comme on dit, on tourne.
Musique.
On tourne.
Une histoire particulière. Une émission produite par Stéphanie Labadie, et réalisée par France Attest. Voilà, une histoire particulière.
Allez, moteur. Musique.
On tourne.
S'il y avait un mot pour définir Jean-Marie Massou, ce serait lequel, selon vous ?
Je pense que le mot sauvage le décrivait parfaitement.
Spécial, bizarre.
Il était bien dans son monde.
C'est un être extra. Ordinaire.
Illuminé un peu.
Un homme très intelligent.
Bon, il était persuadé d'extraterrestre, c'était un peu spécial.
Il avait beaucoup d'humour.
Et quel sentiment vous éprouvez, vous avez aujourd'hui quand vous pensez à Jean-Marie Massou ?
Que c'est dommage que les gens ne se soient pas plus occupés quand il était vivant que maintenant qu'il est mort.
Épisode 1, un marginal controversé.
Alors là, on arrive, c'est l'entrée de la propriété de Jean-Marie, l'entrée basse. On est au pied d'une colline, en fait. Et dès qu'on rentre à l'intérieur, bon, ce qui nous choque un peu, c'est le bazar. Mais encore, c'est propre par rapport à ce que c'était. C'est-à-dire des pierres partout, plus ou moins bien alignées. Il y en a qui sont gravées. Et là, on arrive donc sur cette petite place entourée de végétation. On est à l'entrée de la propriété, donc, avec comme symbole deux pyramides et deux sphinx qui sont les gardiens de la propriété, de la maison.
On peut s'engager alors ?
On y va.
C'est l'histoire d'un homme qui a vécu seul pendant 40 ans dans les bois de Marmignac, une petite commune du Lot entre Quercy et Périgord. Avant d'y décéder en 2020 à l'âge de 70 ans, il a creusé avec obstination cette terre sablonneuse pour y inventer une œuvre étonnante et monumentale. Des puits, des galeries, des sculptures, des collages, des créations sonores et avec eux, des questions en pagaille. Qui était Jean-Marie Massou ? Cet être singulier, cet homme sauvage, comme certains avaient coutume de l'appeler, vivait au lieu-dit le Limoges, à 3 km de Marmignac. Un vaste terrain de jeu que les fidèles de Massou aiment faire découvrir aux novices curieux, venus faire connaissance avec l'homme et son œuvre. Vous êtes maire de Marmignac, Rachel French. Vous êtes aussi la compagne d'André Bargue, l'ancien maire de Marmignac.
Oui.
Quels ont été vos premiers contacts avec Massou ?
Mes premiers contacts, c'était quand il passait dans son tracteur devant ma maison. Et les enfants, j'ai deux enfants qui étaient jeunes à l'époque, le voyaient arriver, c'est une apparition assez étrange. Son tracteur, très très vieux tracteur, cet homme à cheveux ébouriffés un peu. Et les enfants donc couraient le long de la clôture et lui faisaient coucou. Il faisait signe, puis il courait dans la maison tout excité. « Maman, on a vu le monsieur, on a vu le fou du bois !» Et voilà, c'était comme ça que l'appelait notre voisin, en fait, qui nous avait expliqué qui c'était. Bon, il me faisait un peu peur, j'avoue. On avait reçu dans notre boîte aux lettres cette fameuse missive où il incitait la population à ne pas procréer, et qui était très difficile à interpréter parce que l'image, c'est une glaive au-dessus d'un landau, ce qui peut inciter à imaginer la pierre. Donc oui, j'avais plutôt peur de lui à cette époque-là.
Ouais.
Donc là, il y a de chaque côté une allée, là, et on découvre des gravures. Parce que ça, c'était le travail de Jean-Marie. De chaque côté, deux grosses pierres avec des gravures, on en voit après, avec des symboles. Alors, les symboles qu'on retrouve souvent, il y a des genres de calices. Ça n'a rien à voir avec la religion, parce qu'il n'y croyait pas. Des couronnes, parce que ça, ce sont des symboles qu'il a vus dans les lieux où il a habité, quand sa mère et sa grand-mère étaient domestiques, en fait. Dans les châteaux, manoirs de l'Est parisien. Et on retrouve des insectes aussi, des libellules, des abeilles, des... Après, on retrouve aussi des dinosaures, parce qu'il adorait ces animaux-là. Mais les insectes, c'est un hommage aux insectes, en fait. Il gravait des insectes parce qu'il s'apercevait que les insectes disparaissaient, que les oiseaux n'en chantaient plus. En fait, depuis plus de 40 ans, les années 80, il parlait de changement climatique sans le vouloir. Mais lui, qui habitait au fond de ce trou, là, au fond de cette forêt, ressentait quand même des changements, c'est-à-dire des arbres malades, et les insectes qui disparaissaient, les oiseaux qui chantaient plus, et le soleil blanc. Il parlait beaucoup du soleil blanc. Le soleil qui se couche là-bas, il est blanc, il chauffe pas pareil, tout ça. Quand est-ce qu'il va s'éteindre? Il posait des questions là-dessus.
Et ces deux pyramides qui nous accueillent, pour quelqu'un qui n'avait pas eu entre les mains de manuel scolaire, d'où est-ce qu'il tirait ces références-là?
Alors, il était très curieux, Jean-Marie. C'est-à-dire qu'il faisait les poubelles à l'époque parce qu'il savait qu'il allait trouver ou des vieux habits, des vieilles chaussures, mais aussi des bouquins. Avec des images, parce qu'il savait pas lire. Et donc, quand une image l'intéressait, il la ramenait, et puis c'était ensuite le rôle de sa mère de lui dire qu'est-ce que c'est.
Donc là, on est en train de passer entre les deux pyramides qui nous amènent à la masure où
le
il
chemin
habitait avec,
exactement.
Avec sa maman
de la maison. Quand ils sont arrivés, cette ferme était abandonnée, libre, et le maire de l'époque, M. Molinier, leur a proposé justement cette ferme.
Frédéric Florenti, vous habitez au lieu-dit La Blanquie, à 1 kilomètre, enfin tout près de chez Jean-Marie Massot.
Voilà, tout près.
Donc vous avez été voisin pendant de nombreuses années, puisque vous l'avez rencontré, vous avez 10 ans.
À peu près, oui. Lui, se cacher, courir dans les bois, monter aux arbres, alors ça impressionnait un peu les gens d'ici. Et c'est vrai qu'une fois, il a fallu porter des cachets pour sa grand-mère. Et donc ma mère, on y est allée là-bas, et elle nous dit, vous restez derrière moi, et s'il arrive, on repart en courant. Donc voilà, nous, gamins, ça nous faisait peur, pourquoi il fallait courir. Et c'est la première fois que je l'ai trouvé. La deuxième fois qu'on l'a croisé, avec ma femme, on faisait de la moto tout terrain. Et on roulait dans un chemin, et il a apparu, comme dans les dessins animés, il est tombé d'un arbre. D'un arbre, il a sauté devant la moto. Et il n'y avait qu'un bâton, il nous touchait la moto comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il a réagi, c'est... Jean-Marie, c'est Tarzan qu'on appelle. Et elle ne la connaissait pas, donc, parce qu'elle n'était pas d'ici. Et on l'appelle Tarzan, parce que tu vois, il vient d'arriver dans l'arbre. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Jean-Marie? Rien, il me dit, il ne faut pas venir là avec la moto. Ben, j'ai dit, Jean-Marie, c'est le chemin qui va à Marmignac, et nous, de là, on va à Marmignac par là. Bon, moi, il s'est sorti, il nous a laissé passer. C'était la deuxième fois que je l'ai vu.
Voilà, donc là, c'est la maison. Et avec les linteaux, les montants qui sont gravés. Toujours pareil, on retrouve les mêmes symboles, des fougères, une couronne, des fleurs de lys. Et puis après, là-bas, c'était la cave. Et dans la cave, donc, c'était le gros foutoir, un petit peu. Il jetait tout, il mettait des pierres, jusqu'à moitié, c'était rempli. Et il a creusé son premier souterrain dans la cave, pour s'échapper. Il craignait, dans la vie, les gendarmes ou les infirmiers. Il m'a dit, vous pouvez venir, moi, de toute façon, ils ne m'attraperont pas. Il m'avait montré ce souterrain, effectivement. Ça passe sous les fondations de la maison, entre les rochers. Il creuse entre les rochers. C'est du sable qui a été amené, enfin, il y a des millions d'années. Il creuse, il fait des couloirs.
Donc, c'est dans cette maison, et à Marmignac plus globalement, que la famille Massot puise ses origines. Est-ce que vous pourriez nous raconter leur trajectoire?
Oui. Là où on a quelque chose de bien concret, c'est avec l'état civil. Le grand-père et la grand-mère de Jean-Marie se sont mariés à Marmignac en 1914. Et puis il y a eu la déclaration de la guerre, la Première Guerre mondiale, en juillet 14. Et lui, il a été appelé sur le front. Et il est mort dans les premiers mois. Il est mort, sa femme était enceinte de la mère de Jean-Marie, qui est née en décembre 1914. Donc Paul, reconnu pupille de la nation, et donc veuve de guerre pour sa mère. Et on n'a pas retrouvé... comment elles ont fait connaissance de cette première famille qui les a appelées à Vuillaine-sur-Seine. On n'a pas de traces là-dessus. C'est la famille chez qui ils sont restés jusqu'en 1950.
En région parisienne.
En région parisienne, à Villennes-sur-Seine. Et la maman de Jean-Marie, puis sa grand-mère, travaillait donc en tant que jardinière et cuisinière sur cette première propriété où Jean-Marie est né en février 1950. Et ils sont partis de cette maison en 1950, mais en septembre.
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Est-ce qu'il y a eu des conflits ou pas ? Parce qu'on se posait la question, mais voyons, elle travaille là, elle n'est jamais sortie, elle n'est jamais revenue ici, elle a un enfant qui naît là-bas. Donc évidemment, on peut imaginer des scénarios. Le propriétaire, les domestiques, etc. Bon, on suppose qu'effectivement, il y a eu quelque chose avec le...
De père inconnu, mais pas complètement.
Pas complètement, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que Jean-Marie donnait un coup de main à sa mère, qui était jardinière. Donc pas scolarisé, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas compter. Donc par contre, il faisait quelque chose de ses mains. Et avec le jardin, la terre, il remue la terre, il trouvait des choses, il trouvait des trésors. Mais Jean-Marie, une fois qu'il trouve des trésors dans la terre, ben, il ne s'arrête pas à ce qu'on lui a dit de faire. Lui, il faut aller plus loin, il faut creuser. Donc on imagine facilement qu'il y a eu des conflits. Et des conflits, comme Jean-Marie a été reconnu aussi un peu handicapé mental, un peu difficile, etc., eh bien, à l'adolescence, où lui était quand même un rebelle, eh bien, il y a eu internement. Voilà, il y a eu plusieurs internements successifs, et le dernier a eu lieu donc en 73 à Auxerre, à l'hôpital d'Auxerre. À un moment, la mère n'a pas supporté que Jean-Marie reste à l'hôpital psychiatrique. Elle a signé une décharge pour reprendre Jean-Marie et le ramener dans une commune plus sereine qui est ma commune de naissance à Marvignac. Et avec sa mère, elles sont revenues ici, donc avec la complicité du maire de l'époque. Et donc ici, en venant ici, c'était lui offrir, au lieu de l'hôpital psychiatrique, ben, lui offre une forêt. Et il a commencé à creuser, à trouver des merveilles sous terre, enfin selon lui, des rochers, des canyons qu'il a mis à jour. Et ça, ça plaît à Jean-Marie, parce que ça ressemble à un chemin vers quelque chose. Et c'est pour ça que ça l'a motivé à toujours creuser, toujours plus loin. Il a fait des centaines de mètres de galeries. C'était ce qui le passionnait, c'était sa mission.
Après, j'ai commencé, je voulais faire une petite grotte artificielle. Comme j'avais tout ce rubis, je voulais faire une petite grotte artificielle. Avec la poulaillère, le poulailler, le tombeau qu'on a maintenant là. Je voulais faire une grotte artificielle. Je ne sais pas ce que je voulais faire, oui. Quelque chose comme ça. Et alors, je tombe sur le canyon fossile. Je devais que creuser, je tombe sur le canyon parce que je me suis dit, bah, tout fait à la grotte. Je voyais un canyon, la muraille de ce côté, rempli complètement garni de terre à la fond.
Donc c'est ici, en 1974, que Jean-Marie, sa mère et sa grand-mère arrivent au Limoges, qui est le nom de ce hameau. C'est dans cette mesure aussi que vous avez fait connaissance de Paulette Massou pour la première fois. C'était en 1997, vous étiez à l'époque maire de Marmignac. Est-ce que vous pourriez nous raconter les circonstances de cette première rencontre ?
C'était au mois d'août, il faisait très chaud et je reçois un coup de téléphone de Paulette. Et elle m'appelle au secours en fait. C'était un appel au secours pour dire, voilà, venez, il faut qu'on recherche Jean-Marie, il lui est arrivé quelque chose. Donc évidemment, je viens, là je la découvre en réel, malade au fond d'un lit, dans une masure et tout ça, donc je m'inquiète pour elle. Mais elle voulait absolument que je cherche Jean-Marie. Parce qu'il est parti avec son tracteur, il n'est pas rentré la nuit passée. Ok, très bien. Donc je pars dans la forêt chercher un tracteur, je n'arrive pas, mais je reçois quand même, quelques heures plus tard, un coup de téléphone d'elle-même, avec Jean-Marie, qui derrière s'énervait un peu, et en disant qu'il était rentré, il fallait que j'arrête les recherches. Donc je reviens, et là, c'est là qu'elle m'apprend qu'elle est vraiment malade, et qu'elle avait pris des somnifères, une fois que Jean-Marie était parti, elle avait dormi, elle s'était réveillée, donc... La journée. Et donc, elle a confondu la sieste avec la nuit, et c'est pour ça que Jean-Marie était en colère aussi. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre, mais après, évidemment, il a fallu s'occuper d'elle parce qu'elle était vraiment malade, et c'est là qu'il y a eu une hospitalisation fin d'août 97.
Est-ce qu'on sait de quoi souffrait Paulette Massou ?
Oui, elle me l'a dit. Elle a dit « J'ai un cancer de l'utérus avancé, je vais mourir ». Voilà, le diagnostic est comme ça. Et je ne veux pas qu'on m'opère. Elle disait que Jean-Marie n'aurait pas supporté qu'on touche à son corps. Et c'est là où j'ai parlé avec elle, qu'elle me dit, ben voilà, je vous donne la propriété, mais il faut vous occuper de Jean-Marie. J'ai dit, non, on ne fait pas ça comme ça. Moi, je suis mère en plus, on ne va pas me donner une propriété, c'est suspect. Il y a moyen de trouver des tutelles, enfin bref. Elle me dit, oui, mais il faut me promettre une chose, c'est qu'il ne faut pas que Jean-Marie retourne à l'hôpital. Et je la voyais mourante, cette dame. J'avais pas d'autre choix de lui dire « Oui, je vous promets que Jean-Marie ne reviendra pas à l'hôpital. » Et là, elle, de suite, elle s'est éclairée. Quoi. Elle était contente, elle était sereine et elle est décédée 2 jours après. Voilà, donc la mission commençait.
Donc c'est à partir de cette époque-là que Jean-Marie Massou a commencé à vivre seul dans cette habitation. Mmh. Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur
oui.
à quoi ça ressemble?
Oui, on va ouvrir.
Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Maurice Bargue, vous habitez au lieu-dit l'Albinque Haute, oui. qui se situe à 2 km de la propriété de Jean-Marie Massou.
Entre 2 et 3.
Vous avez donc été voisin pendant plusieurs dizaines d'années?
Avec des hauts et des bas. Hein. Il y avait des fois, il échappait un peu, quoi. Un peu étrange, quand même. C'est-à-dire, pas tout à fait normal.
Et sa maman, quel genre de relation avait-il, justement?
Avec elle? Très bonne relation de temps en temps, et très mauvaise des fois. Voilà. Une fois, il est venu pendant la nuit, à 2h du matin, ici, taper par les poteaux. C'était pas rigolo, ça, hein. À 2h du matin, quelqu'un qui vous tape par les poteaux ou par le portail en fer, là, vous vous levez, je vous dis que vous vous levez. Et quand vous voyez que c'est Massou, vous commencez à paniquer, parce que là, quand il était hors de lui, il était hors de lui. Il était dangereux. Sauf que il n'a jamais touché des personnes.
Donc André Barre, voilà. Là, on est en train de rentrer pour nous pour la première fois
oui.
chez Jean-Marie Massou.
Chez Jean-Marie. Alors, évidemment, c'est vidé là. On peut dire que c'est propre. Mais vous apercevez que ce n'est pas de tout confort. Donc, il reste encore pas mal d'objets, témoins. Mais c'est pas loin de ressembler à ce que c'était.
Donc, un sommier renversé, une oui. cuisinière pas très nettoyée.
Voilà, le frigo.
Un frigo ouvert.
Il ne se servait plus du frigo ni de la gazinière. La gazinière, c'était pour réchauffer les conserves, parce qu'il ne cuisinait pas. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau courante. Le courant a lié, mais elle ne rentre pas dans la maison. C'est un tuyau qui arrive.
L'électricité ?
L'électricité, oui. Il y a une lampe, mais avec une installation très précaire.
Et où est-ce que dormait Jean-Marie ?
Alors Jean-Marie, au début, il était là-haut, parce qu'il avait dit que c'était son lit. Et après, il dormait ici, là où était sa mère. Tout le temps que je l'ai connu seul, il dormait là.
Donc, en 97, la maman de Jean-Marie disparaît. Est-ce que vous avez vu quelque chose changer dans son comportement?
Son comportement était différent, parce qu'il n'avait pas à tenir compte de quelqu'un d'autre. Donc, il vivait comme il le souhaitait. Et donc, l'alimentation n'était plus la même, était devenue plus précaire. C'était les boîtes de conserve, il n'y avait pas de cuisine du tout. C'était le fromage, c'était le pain, des fruits. Jamais d'alcool. J'ai jamais vu une goutte d'alcool ici. Il ne fumait pas. On voyait quand même qu'il y avait un laisser-aller. Il y avait des choses qui n'étaient pas importantes pour lui. Ce qui comptait, c'était sa mission, son travail. Le ménage, ça, c'était secondaire.
Quand sa mère a disparu, là, il s'est rapproché de nous. Parce qu'on était pratiquement, je pense, les seuls voisins qui lui parlaient. Donc, il venait le soir nous voir, ou nous aider à fendre du bois, aider à ma femme. Parce qu'au début, il en avait peur, il n'osait pas s'approcher. Dès qu'il y avait une femme, on le voyait derrière les arbres. Enfin, c'est d'un arbre, alors, un peu comme les chevreuils. C'était la tête qui dépassait, il regardait, puis hop, il se replanquait. Mais voilà, mais pas méchant. Et quand j'étais tout seul, il venait m'aider. On travaillait ensemble et tout, il m'aidait dans les bois. Donc voilà, et je ne peux pas dire du mal de lui. Je sais qu'il a eu des comportements avec certaines personnes, mais qui l'ont plus ou moins provoqué. Donc méchant, comme je l'aurais été moi, si on s'était foutu de ma gueule, un peu, si on le prenait pour un fou. Il n'était pas instruit, mais il n'était pas fou.
Je me rappelle une année, c'était 4-5 jours avant la Noël, il est venu me voir et il m'a dit « Noël, c'est quand ?» Je crois que je lui avais dit 4-5 jours. Ah, il me dit « Oui, mais moi, je ne me rappellerai pas. » Et puis, il a pris un bout de bois de 20 cm et il a coupé des morceaux. 1, 2, 3, 4. Et ça, il les a mis à la poche. J'y ai dit, mais pourquoi tu lui mets à la poche les morceaux de bois comme ça? Il me dit, parce que chaque jour, j'en sors un, comme ça je sais qu'après c'est la Noël. Voilà.
Quel rapport Jean-Marie Massou entretenait avec la solitude, selon vous, Frédéric Florenti?
Je pense qu'il en souffrait parce que on a eu parlé plusieurs fois et il me dit, tu comprends, personne ne veut me parler. Il me dit, quand je passe dans les maisons, les gens se cachent et ils ne veulent pas me parler. Mais moi, je dis, Jean-Marie, c'est toi qui l'as cherché. Tu as fait peur aux gens quand tu es arrivé. Les gens ont peur de toi. Mais je ne suis pas méchant. Mais je dis, t'es pas méchant. Moi, je le sais. Je lui dis, t'es spécial, comme il disait. C'est quoi spécial? Mais je dis, t'es spécial. Les gens ont peur de toi et c'est pour ça. Donc la solitude, il lui pesait un peu, je pense.
Et une fois, il a eu un conflit avec la Poste. Et donc, il a cabossé la voiture de la Poste avec un morceau de bois. Alors évidemment, il y en a qui ont dit qu'il avait touché le facteur. Non, c'est pas vrai, il a touché que la voiture. Mais le facteur a été obligé de faire un rapport, s'est monté à la hiérarchie, qui a porté plainte, et il y a eu un internement d'office. Et donc, il a été interné plusieurs mois à Leim, dans le Lot. Et là, j'ai pris conscience de l'échec. Là, j'ai commencé à baisser les bras en disant, ben, on n'améliorera pas la situation, mais on va faire avec. Et on a fait avec.
Et qu'est-ce qui, au fond de vous, vous a fait croire que ça valait la peine d'y croire?
Il était sincère dans ce qu'il faisait. Il croyait à ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il avait cette mission-là.
Cette mission,
c'est-à-dire, pour lui, c'était un peu sauver la planète. C'est-à-dire, arrêter de faire des enfants parce que vous allez faire des malheureux. Parce qu'il y a la pollution, parce qu'il y a les guerres, parce qu'il y a les maladies, les virus, le chômage. Il est arrêté de faire des enfants, vous allez me faire des malheureux. À l'image de ce qu'il a été, certainement. Et donc, j'avais rien à dire là-dessus.
C'est un message de l'ancien actualité. C'est un message de l'ancien actualité. Alors compris, 7 milliards sur Terre, il y a longtemps qu'on est trop nombreux. Il y a longtemps qu'on est 7 milliards sur Terre, il y a longtemps qu'on est trop nombreux. Avant d'arrêter complètement de procréer, avant d'arrêter complètement de procréer. Sinon ça va trop m'emballer, sinon ça va trop m'emballer. Oh, 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 oh.
Jeannine, vous avez travaillé pendant 20 ans comme infirmière à l'Institut Camille Mirée, dans la commune de Leim, dans le Lot, pas très loin de Marmignac. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons et les circonstances de son internement?
Jean-Marie est arrivé avec les forces de l'ordre. C'était contre sa volonté, bien sûr. On a vu qu'il était très agité, très opposant, dans la rébellion la plus totale. Il a fallu un certain temps pour apprivoiser le personnage, qui au début était comme un être sauvage. Et Jean-Marie nous a surpris plus d'une fois, agréablement, je veux dire. Mais il avait une philosophie de la vie qui nous déconcertait un petit peu. Il rêvait à la construction, à ses constructions, à ce vaisseau pour aller à la rencontre d'autres.
D'autres êtres.
Bien sûr, là-dessus, on a un peu de mal à le suivre. Il avait une peluche aussi, à laquelle il tenait énormément. Un petit ours en peluche. Et c'est par là qu'on percevait sa sensibilité et son attachement.
Vous pouvez entrer, mais une à la fois. Je vous remercie.
J'ai mal les bobines,
Le dessin animé qu'il aimait beaucoup, c'était La Fée Clochette. La Fée Clochette, c'était, je ne sais pas pourquoi, mais 100 fois, on l'a peut-être regardé. On a sauté des fois quand même, parce que tous les vendredis soirs, j'y portais à manger. Et tous les vendredis soirs, pendant une bonne heure, je pense, rester. Donc lui, il mangeait. Donc j'avais mes deux filles avec moi. Il mangeait, et il nous mettait le dessin animé. Mais il fallait le regarder.
Chez lui.
Chez lui. Dans ce lieu un peu insalubre, on va dire. que mes filles aient resté derrière moi, parce que quand il mangeait le poulet, il faisait les gestes, alors les bouts de viande partaient collés par la télé. Il était tellement content de nous montrer ce dessin animé qu'il était dedans à fond.
Il appelle ça la faille. En fait, comment il s'y prend ?
Il enlève la terre végétale, donc c'est très peu de centimètres, et très vite, il arrive à la roche. Et donc, il dégage ça, et puis ensuite, il creuse ce qu'il peut. Et ça donne des canyons. Sauf que là, il descend à 7 mètres. Pour lui, c'était des chemins symboliques qu'il fallait faire mettre à jour. Et en même temps, pour rendre ce lieu visible. C'est-à-dire qu'en travaillant sur les rochers, en les accumulant, en faisant des trous, eh ben, quand les extraterrestres auxquels ils croient verront ce lieu et comprendront ce qu'a fait Jean-Marie. Et il savait que les extraterrestres, eux seuls, pourraient ramener à la vie ce qui était mort. D'où, pour lui, l'intérêt de conserver des insectes, parce qu'il s'apercevait qu'il y en avait de moins en moins. Et donc, ces insectes-là, c'était pour qu'un jour, ils reviennent à la vie grâce au pouvoir des extraterrestres.
Un seul rond représente 700 000 millions de milliards, 700 000 millions de milliards de galaxies.
Qui était Jean-Marie Massou, selon vous, André Bargues ?
Moi, je pense que c'était quelqu'un qui méritait quand même la confiance. Il fallait rentrer dans son jeu, certainement, mais il avait la bonne cause, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le mal. Quand il critiquait le fait de faire des enfants, il ne voulait pas le mal. Même s'il pouvait être violent, il revendiquait violemment le fait de ne pas en faire, ce qu'il voulait, c'était le bonheur.
Est-ce que vous avez souvenir du dernier moment vécu avec Jean-Marie ?
Oui, c'était un lundi après-midi avec Rachel, parce qu'il avait demandé à ce qu'on vienne le voir, parce qu'il avait besoin d'un médecin. Et on a passé quelques temps avec lui l'après-midi à parler. C'est là où il a parlé un petit peu de tout ce qu'on avait fait ensemble. Il a fait des excuses même sur ce qui s'était passé entre nous, puisqu'il y a eu des moments un peu durs. Et il a reconnu qu'on avait fait du bon boulot et que voilà. Mais c'était un moment, franchement, je le sentais comme un adieu, parce que je savais qu'il souffrait. Il est venu avec un bâton alors que d'habitude, il n'avait pas de canne. Et en demandant le retour d'un médecin pour le soigner.
Et de quoi souffrait-il ?
Alors, Jean-Marie, c'est le dernier diagnostic du médecin, c'était peut-être hernie, problème peut-être cardiovasculaire, il y a l'usure aussi physique, des douleurs. Moi, j'ai eu ce regret. C'est-à-dire, pourquoi je ne le prends pas, je ne l'amène pas à l'hôpital pour faire des examens comme on fait à tout le monde. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on aurait gagné dans l'état où il était ? Quelques jours, quelques semaines, il aurait été isolé dans un hôpital, chose qu'il redoutait. Je pense que c'était la solution de le laisser ici en le soignant sans qu'il souffre.
Jean-Marie Massou, l'énigme des bois du Lot. Épisode 1, un marginal controversé. Avec André Bargues, Rachel French, Maurice Bargues, Frédéric Florenti. Extrait du film Le plein pays d'Antoine Boutet et d'enregistrement réalisé par Jean-Marie Massou, édité par La Belle Brute. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Stéphanie Labadie, réalisé par François Test. À suivre, l'épisode 2, Le mystère d'une œuvre brute.